Voilà, alors comme promis, on a notre reporter national. Bonsoir, Bastien. Merci de nous appeler pour nous parler de tes deux articles dont tu voulais nous exposer. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh ben, moi, je vais vous parler de la fin du support de Windows 10 qui arrive la semaine prochaine.
Ok, bah c'est parti.
Voilà, donc le célèbre logiciel édité par Microsoft dans sa version 10 qui va expirer le 14 octobre prochain. C'est un délai qui fait déjà suite à un sursis qui avait été accordé par l'entreprise l'an dernier, où ils avaient laissé un an de plus pour faire les mises à jour. Mais suite à ça, c'est 400 millions d'ordinateurs qui vont devenir obsolètes, faute de supporter la nouvelle mise à jour, soit près d'un sur trois qui est encore équipé de cette version qui ne pourra pas passer à la suivante. Et je continue avec les chiffres, donc on a quand même un taux de recyclage très faible sur l'informatique qui est évalué à 20%, c'est-à-dire qu'on estime maintenant à 725 000 tonnes de déchets supplémentaires suite à cet abandon de machines qui vont venir peupler les décharges. Donc on est vite tenté de parler d'obsolescence programmée pour ce genre de cas, mais c'est oublier la nature des abus qui avaient forgé ce qualificatif. Donc on rappelle pour l'histoire, ces imprimantes qui, par certains fabricants, sabotaient sciemment leur capacité à fonctionner par l'ajout actif d'une bride qui bloquait la machine au-delà d'un certain nombre de pages imprimées. Mais dans notre cas ici, c'est un peu plus subtil et on pourrait plutôt parler d'une obsolescence systémique. Bon, alors déjà, on va faire un petit récapitulatif. C'est quoi un système d'exploitation ? Donc c'est un ensemble de programmes informatiques articulés autour d'un noyau, qui est un gros programme chargé de simplifier l'accès au matériel pour les autres programmes, et qui permet l'utilisation de base d'un ordinateur, donc en vous donnant une interface graphique, le traitement de texte, un peu de navigation sur Internet, etc. Or, maintenir dans le temps la garantie du fonctionnement de tous ces logiciels, ainsi que leur résistance aux attaques informatiques, le tout sur une variété de matériel toujours de plus en plus grande, est impossible. Et ce, même pour le plus gros acteur commercial de la planète qu'est Microsoft. C'est ainsi qu'à chaque nouvelle version de Windows, le même désastre se répète, et la possibilité que la 11e édition évite cet écueil n'est même pas évoquée tellement tout cela est attendu. On est alors en droit de se demander pourquoi n'y a-t-il pas une date de péremption affichée sur les ordinateurs quand on les achète, par exemple. Eh bien, c'est ambigu. Le matériel est techniquement toujours en état de fonctionner, et il n'y a que le logiciel qui est touché par cette obsolescence. Notez aussi que la vente liée, ici le fait d'acheter un ordinateur et son système d'exploitation comme s'il s'agissait d'un seul produit, est normalement interdite par la loi. Mais l'informatique a toujours bénéficié d'un régime d'exception, car le législateur estime que personne ne souhaite acquérir une machine qui ne soit pas directement en état de fonctionner, et donc a toujours décidé de ne pas attaquer cette pratique. Dès lors, le prix d'achat de votre ordinateur neuf intègre toujours le coût d'une licence Windows, qui représente, on va dire, plusieurs dizaines d'euros. Et malgré ce qu'en dit la loi, il est quasi impossible de demander au vendeur d'acheter le matériel sans le logiciel. D'ailleurs, au niveau du gouvernement, même si quelques rares secteurs comme la gendarmerie sont sortis des griffes de Microsoft depuis déjà plusieurs années, la majorité des ministères restent attachés aux géants américains, qui, en offrant régulièrement des licences pour équiper les écoles et les administrations, s'assurent une hégémonie sur le long terme, tout en occultant ainsi toutes les alternatives. De noter que Apple applique également la même stratégie de fabrication d'une dépendance en offrant des Mac aux universités, histoire que les étudiants se forment sur ces outils. Et oui, la charité capitaliste n'est jamais vraiment gratuite. Par chance, il y a une solution à tout ça, et cette solution, c'est le logiciel libre. Et vous connaissez forcément Firefox, VLC, Linux. Le plus simple pour vous le décrire, c'est encore d'aller écouter Richard Stallman, le père fondateur du mouvement, qui reprend volontiers d'ailleurs la devise française « liberté, égalité, fraternité » pour décrire le logiciel libre. Et donc je le cite, « liberté car chacun est libre d'utiliser et de modifier le programme comme il le souhaite, égalité car tous les utilisateurs ont les mêmes libertés, et fraternité car il encourage la coopération entre les utilisateurs et les développeurs ». D'ailleurs la légende veut que ce soit l'obsolescence d'une imprimante qui, au début des années 80, a poussé Richard à conceptualiser ce qui était la norme au début de l'informatique, c'est-à-dire l'ouverture du code source. Alors pareil, petit point technique, c'est quoi un code source ? On va faire une simple analogie culinaire. Pour faire un gâteau, vous partez d'une recette qui détaille ce qui compose le gâteau. Et si je vous sers le gâteau sans vous donner la recette, c'est assez difficile de savoir s'il contient des allergènes, par exemple, qui pourraient vous être fatales, ou d'espérer refaire le gâteau, que ce soit à l'identique ou en l'ajustant à votre goût. Et bien le code source, c'est un peu la recette du logiciel. Il va permettre de faire évoluer quand, par exemple, le système d'exploitation qu'il fait tourner change de version, mais ça permet aussi de vérifier que le logiciel ne fait pas des choses contre notre gré, comme d'exfiltrer des données personnelles à notre insu. Enfin, c'est aussi lui qui explique comment les données que vous produisez avec le programme en question seront sauvegardées sur l'ordinateur, et donc ça permet de conserver l'accès à long terme des données que vous allez produire. Ce qui, des fois, est un problème quand l'entreprise qui édite votre logiciel met la clé sous la porte, ben, des fois on perd les données qu'on a fait avec. Mais je reviens au logiciel libre, alors cybercommunisme pour les uns, idéal libertaire pour les autres, le fait est que le mouvement est toujours méfiant à l'idée de marchandiser ses créations. C'est d'ailleurs l'un des points qui le distingue d'un autre mouvement apparu à la fin des années 90, qui s'appelle l'open source. Si le logiciel libre porte un projet social d'horizontalité, du moins aussi horizontal que le permettent la technologie et sa spécialisation, l'open source est plutôt le fruit de la pensée libertarienne, qui voit dans l'ouverture du code source une manière de stimuler la concurrence marchande et l'innovation, surtout à une époque où la complexité des logiciels comme les noyaux qu'on a évoqués juste avant atteint une complexité qui échappe même à la maîtrise des plus grandes multinationales. C'est ainsi que derrière même Linux, le plus grand noyau connu du logiciel libre, on retrouve des grandes compagnies comme Intel et même Microsoft qui collaborent avec certains hackers libertaires. Mais bon, je ne vais pas me lancer ici dans une critique approfondie de ces techniques. Et puis en plus, vous avez déjà l'antenne Racine de -1 qui fait ça déjà très très bien. Donc malgré certaines critiques qu'on puisse faire au logiciel libre, ça reste quand même depuis sa naissance le meilleur allié de toutes celles et ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur ces machines, désormais omniprésentes dans nos vies, que ce soit en permettant de redonner vie à du matériel considéré comme obsolète par le marché, ou pour protéger son intimité du regard de la surveillance des États et des entreprises. Mais comment bifurquer alors? Et bien même si quelques boutiques de quartier sont capables de fournir un support en vous évitant de mettre les mains dans le cambouis, le support communautaire reste la principale ressource. On peut parler par exemple des groupes d'utilisateurs du logiciel libre, les GUL, G-U-L, mais certains hackerspace sont aussi parfois une porte d'entrée vers ce monde. Et impossible de ne pas parler de Framasoft, l'un des principaux acteurs francophones dans le domaine, qui propose plutôt des solutions pour éviter les outils de Google. Il y a aussi l'association April, qui œuvre à la promotion et la défense du logiciel libre. Alors plus concrètement, pour mes amis du sud de la France, on peut citer l'association Le Cercle, C-E-R-C-L-L, qui organise d'ailleurs régulièrement des install parties, c'est-à-dire des moments où vous pouvez trouver un accompagnement pour installer Linux sur votre ordinateur. La prochaine install party d'ailleurs de l'association est annoncée pour le 31 janvier 2026, de 14 à 18 heures, dans la salle du Foyer du Peuple, 50 rue Grandis à Marseille. Dans la même ville, vous avez également le Provence Linux User Group, qui se réunit mensuellement au lieu nommé La Base, rue Pierre Roch. Sinon, du côté d'Aix-en-Provence, vous pouvez retrouver l'AXUL, A-X-U-L, qui fournit le même genre d'accompagnement. Et pour tous les autres, vous pouvez aller voir sur le site endofthis.org, qui fournit une carte pour vous aider à retrouver les groupes de support proches de chez vous. Pour finir, je vais évoquer aussi rapidement, parce que des fois, ça c'est pas que le logiciel qui est concerné par cette logique d'émancipation. On a de plus en plus d'initiatives qui visent à produire du matériel libre. Donc CPT d'ailleurs, il y a le projet OpenWRT, qui est un projet qui vise à fournir du logiciel libre pour les équipements réseau, comme votre box internet par exemple, qui vient de sortir sa propre box internet en matériel ouvert. Certains d'entre vous connaissent peut-être les Raspberry Pi, c'est des ordinateurs qui font la taille d'une carte de crédit. Vous avez aussi les Arduino, qui sont des petites cartes d'initiation à l'électronique. Et après, au-delà de ça, on a du côté d'Internet, une fédération, la French Data Network Fédération, FFDN, qui regroupe toute une galaxie de fournisseurs d'accès Internet associatifs qui peuvent être une alternative aux grands opérateurs inféodés au gouvernement et à sa censure. Concernant les services en ligne, je vous ai déjà évoqué Framasoft et ses alternatives à Google, mais on ne peut plus ne pas parler du chaton, qui est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui a été lancé en 2016, et oui, qui fait un joli acronyme. Enfin, l'art et la culture n'y échappent pas non plus. Vous avez par exemple les licences Creative Commons, que vous avez peut-être entendu parler, qui protègent par exemple le contenu du site Wikipédia, et même des bases de données qui sont sous des licences, pareil, qui essayent de limiter les dégâts de la propriété intellectuelle, comme le site OpenStreetMap, qui est une carte collaborative, et même le domaine de l'art a des licences comme Art Libre, qui permettent de diffuser de la musique ou des photos en évitant ces écueils. Voilà, bref, les portes d'entrée sont nombreuses, et il ne tient maintenant plus qu'à vous de les franchir. Je vous rappelle donc l'adresse du site pour vous appuyer dans cette démarche, endofthis, donc endof10.org. Voilà.
Merci beaucoup.